Bonjour à tous, bienvenue pour cet avant-dernier épisode du cycle consacré à Chuck Palahniuk et qui sera consacré aujourd'hui à son tout premier roman intitulé Monstres Invisibles. Alors, tout premier roman, pas vraiment, parce qu'en fait, avant Monstres Invisibles, a été publié Fight Club dont on avait parlé au tout début de ce cycle. Et bien, il se trouve que avant, Chuck Palahniuk avait déjà écrit un livre qui était donc Monstres Invisibles et qui avait été refusé par tous les éditeurs parce qu'ils avaient trouvé le bouquin beaucoup trop choquant pour eux. Et ce n'est donc qu'après le succès de Fight Club qu'a été publié ce roman. Une fois encore, l'histoire ne va pas faire dans l'ordinaire. C'est celle de Shannon McFarlane, qui est un mannequin vedette. Alors, pour elle, c'est le succès. Elle est jeune, belle, elle est riche. Mais voilà, elle est victime d'un terrible accident qui va la défigurer, carrément la mutiler, puisqu'elle perd une partie du visage, c'est carrément de la mutilation. Et bien sûr, à partir de là, tout s'écroule. Pour une mannequin, bien évidemment, c'est le pire qui pouvait lui arriver. Elle se retrouve donc à l'hôpital, et c'est là qu'elle va faire une drôle de rencontre, en la personne de Brandy Alexander, personnage complètement mystique, qui va l'entraîner dans un road trip, qui la conduira bien, comme dans une quête initiatique quelque part, à se retrouver, à se refaire, suite à ce terrible accident. Alors, à mon sens, c'est juste le meilleur bouquin qu'ait jamais fait Chuck Palahniuk. Que ça soit dans le style, que ça soit dans l'idée, dans l'histoire qu'il a racontée, sans trop vous en dire. De toute façon, c'est jamais possible de résumer les bouquins de ce mec. Il y a vraiment tout dedans. C'est le bouquin parfait. Alors, je vais pas trop jouer les fanboys quand même. Je vais essayer d'argumenter. Il y a déjà donc la narration avec le découpage. On retrouve de suite un des éléments phares du style Palahniuk, c'est-à-dire un découpage narratif qui va sans arrêt aller d'avant en arrière, dans le temps, dans l'espace, qui fait que c'est très difficile à lire au départ. Je ne vous cache pas que les premières pages, on a envie de revenir en arrière et de se demander « mais est-ce que j'ai pas loupé un truc ?» Mais c'est normal, il faut entre guillemets se laisser aller et jouer le jeu. Autre marque de fabrique qui déjà se met en place dans ce premier ouvrage, c'est l'usage de la narration à la première personne. Donc c'est l'héroïne qui nous parle. Et puis bien sûr, les fameuses gimmicks dont j'arrête pas de vous parler et que vous verrez bien dans l'extrait que je vous propose de vous lire tout de suite. Là où vous êtes censé vous trouver, c'est au beau milieu de quelques grandes réceptions de mariage de West Hills, dans un vaste manoir résidentiel, avec disposition florale et champignons farcis à travers toute la maison. On appelle ça plan de situation et de décor, l'emplacement de chacun, qui est vivant, qui est mort. Et c'est le grand moment de la réception de mariage d'Evie Cottrell. Evie est debout à mi-chemin de l'énorme escalier dans le hall d'entrée du manoir, nue à l'intérieur de ce qui reste de sa robe de mariée, le fusil toujours à la main. Moi, je suis debout au bas des escaliers, mais il n'y a que mon corps qui fasse acte de présence. Mon esprit est je ne sais pas où. Personne n'est encore tout à fait mort, mais disons que les secondes s'égrènent, ça risque de ne pas durer. Non que quiconque dans le grand drame qui se joue soit d'ailleurs vraiment complètement vivant non plus. À voir l'allure d'Evie Cottrell, on peut faire remonter son look à quelques publicités télévisées pour shampoing d'origine naturelle. Sauf qu'en cet instant, la robe de mariée d'Evie Cottrell a complètement brûlé et ne reste d'elle que les cerceaux métalliques en orbite autour de ses hanches et rien de plus que les petits squelettes en fil de fer de toutes les fleurs en soie qu'elle avait dans les cheveux. Et la chevelure blonde d'Evie, son énorme choucroute toute crêpée coiffée en arrière, arc-en-ciel nuancé de toutes les variantes de blond possibles gonflées et tenues à la laque, eh bien, la chevelure d'Evie, elle aussi, a brûlé. L'autre personnage présent en ce lieu est Brandy Alexander, qui s'étale, blessée d'un coup de fusil au bas des escaliers, en train de saigner à mort. Ce que je me dis à moi-même, c'est que le jet de rouge qui pulse au sortir de l'orifice de la balle reçue par Brandy ressemble moins à du sang qu'il n'est un outil sociopolitique. Cette idée qu'on est cloné à partir de toutes ces publicités pour shampoing, eh bien ça vaut pour moi et pour Brandy Alexander aussi. Abattre quelqu'un d'un coup de fusil dans cette pièce serait l'équivalent moral de tuer une voiture, un aspirateur, une poupée Barbie. Effacer un disque d'ordinateur, brûler un livre. Probablement que ça vaut pour le meurtre de n'importe qui sur Terre. Nous sommes tous de tels produits. Brandy Alexander, la reine fleur à longue tige, aussi mode et moussue que le latté, la diva suprême des filles spectacle, haut de gamme, incontournable. Brandy est en train de se vider de ses intérieurs par un orifice de balle dans sa veste de tailleur par ailleurs absolument stupéfiante. Un tailleur blanc, copie d'un modèle de Bob Mackie, et Brandy l'a acheté à Seattle, avec jupe entravée et moulante, qui lui resserre le cul en forme parfaite de gros cœur. Vous ne croiriez pas combien ce tailleur a coûté. La marge bénéficiaire est d'environ 1 milliard de pourcents. La veste de tailleur a de petites basques en jupette péplum, avec larges revers et épaules marquées. La coupe droite est symétrique, à l'exception du trou qui crache son sang en pulsation. Et c'est alors qu'Evie se met à sangloter, debout qu'elle est là, sur l'escalier. Evie, ce virus mortel de l'instant qui nous tient, c'est le signal pour que tous nos regards se portent sur la pauvre Evie. La pauvre, triste Evie, sans plus un poil sur le caillou et vêtue de plus rien que des cendres encerclées par la cage en fil métallique de sa robe à sursaut complètement consumée. Et c'est alors qu'Evie lâche le fusil. Son visage sale entre ses mains, elle s'assied et commence bouh, comme si les pleurs allaient résoudre quoi que ce soit. Le fusil, c'est une carabine chargée au 30-0, il dégringole les marches avec fracas et s'en vient déraper jusqu'au milieu du hall d'entrée, en tournoyant sur le plat de la crosse, pour se pointer sur moi, pour se pointer sur Brandy, pour se pointer sur Evie, en pleurs. Ce n'est pas que je sois une sorte d'animal de labo complètement détaché des réalités, uniquement conditionné pour ignorer la violence, mais mon premier instinct est que peut-être il n'est pas encore trop tard pour tapoter la tache de sang d'autres Celtes. Jusqu'à présent, la majeure partie de ma vie d'adulte s'est passée debout sur du papier, sans joint pour une tapée de bifton de l'heure, portant vêtements et chaussures, impeccablement coiffés, avec un célèbre photographe de mode me disant comment je dois me sentir. Lui qui me hurle « Fais-moi ça désiré sexe, poupée !» éclair du flash. « Fais-moi ça malveillance !» éclair du flash. « Fais-moi ça ennui, existentialiste, détaché !» éclair du flash. « Fais-moi ça intellectualisme conquérant comme mécanisme de survie !» éclair du flash. Probable que c'est le choc de voir ma seule pire ennemie abattre mon autre pire ennemi. Voilà ce que c'est, boum. Et ça devient une situation où on gagne à tous les coups. Ça, et le fait de traîner avec Brandy. Et je suis devenu plutôt pas mal accro au dramatique. Aussi, quand je me mets un mouchoir sous le voile, ce n'est qu'une illusion de larmes. En fait, c'est pour respirer, pour filtrer l'air dans la mesure où il est devenu, comme qui dirait, presque impossible de respirer à cause de toute la fumée, parce que le grand manoir résidentiel d'Evie est en train de brûler autour de nous. Moi, agenouillé à côté de Brandy, suffirait que je glisse la main partout dans ma robe et j'y trouverai du Darvon, du Démérol et du Darvo 700. C'est le signal pour que tous les regards se tournent vers moi. Ma robe est une copie, un imprimé du linceul de Turin, marron et blanc pour l'essentiel, drapé et taillé de manière que les boutons rouges brillants boutonnent au travers des emplacements des stigmates. Il faut dire aussi que j'ai la tête enveloppée de mètres et de mètres de mousseline organdie, noire, piquée de petites étoiles en cristal autrichien. Côté figure, impossible de savoir l'air que j'ai, mais c'est là l'idée générale. L'allure est élégante et sacrilège et me fait me sentir sacré et immoral. Très haute couture, qui se fait de plus en plus haute. Le feu approche doucement du papier peint du hall d'entrée. Ce que j'ai pour compléter l'agencement du décor, c'est que c'est moi qui ai mis le feu. Les effets spéciaux, ça facilite les choses pour ranimer une atmosphère. Et, après tout, ce n'est pas comme si on était dans une vraie maison. Ce qui est en train de brûler, c'est une récréation d'un modèle historique remis au goût du jour, d'après un modèle repris d'une copie de copie d'une copie d'un vaste pseudo-manoir de style Tudor, à des centaines de générations de distance, de quoi que ce soit d'original. Mais en vérité, est-ce que ce n'est pas la même chose pour chacun d'entre nous, tous autant que nous sommes? Juste avant qu'une Evie hurlant à tue-tête ne descende l'escalier pour tirer sur Brandy Alexander, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai versé au moins 4 litres de Chanel numéro 5 avant d'y coller un carton d'invitation au mariage enflammé. Et boum, me voilà qui recycle. C'est drôle, mais quand on y réfléchit bien, même le feu tragique le plus violent n'est rien plus qu'une réaction chimique soutenue. L'oxydation de Jeanne d'Arc. Au sol, toujours tournoyant, la carabine se pointe sur moi, se pointe sur Brandy. Autre petit détail, c'est que, quelle que soit l'intensité de l'amour qu'on croit éprouver pour quelqu'un, on fait un pas en arrière quand la flaque de son sang commence à se rapprocher d'un peu trop près. Hormis tout le côté grand drame de ce qui est en train de se jouer, la journée est vraiment très agréable. Une belle journée chaude et ensoleillée, avec la porte en façade ouverte sur le perron d'entrée et son avant-toit et la pelouse au dehors. Le feu à l'étage entraîne la chaude odeur de pelouse fraîchement tondue jusque dans le hall d'entrée. Et on peut entendre tous les invités au mariage à l'extérieur. Tous les invités, ils ont pris les cadeaux qu'ils voulaient et s'en sont allés attendre sur la pelouse que les pompiers et les ambulanciers fassent leur entrée. Brandy, elle ouvre une de ses énormes mains emperlées de bagues et elle touche le trou qui déverse son sang à travers tout le marbre du sol. Brandy, elle dit « Merde, il est hors de question que le bon marché me reprenne ce tailleur. » Evie relève la figure, une figure comme une foutoir de peinture au doigt, et elle la suit, et elle la morve, et aux larmes, et elle hurle « Je déteste que ma vie soit aussi ennuyeuse !» Evie hurle à Brandy Alexander en contrebas « Quand tu seras en enfer, garde-moi donc une table avec vue !» Les larmes dévalent deux rigoles bien propres sur les joues d'Ivy. Et elle hurle. « Et ça se dit une amie. Faudra que tu me hurles dessus quelques gracieusetés, toi aussi, non ?» Et comme si tout ceci n'était pas déjà du drame, du drame, du drame. Brandy relève les yeux vers moi, agenouillée à côté d'elle. Avec ses yeux aubergines qui se dilatent jusqu'à pleine floraison, elle dit « Brandy Alexander va mourir maintenant ?» Evie, Brandy et moi, tout ça n'est qu'une lutte de pouvoir pour être sous les feux des projecteurs. Rien que moi, moi, moi première, et pas une pour racheter l'autre. La meurtrière, la victime, le témoin, chacune de nous trois pense que son rôle est le premier rôle. Une fois encore, on est devant une introduction pas banale, où le décor est déjà planté. Ça aussi, il aime bien Palahniuk démarrer directement dans l'action. C'est comme Fight Club, hein, le début était quasiment la fin. Bah là, c'est un peu la même chose. En tout cas, c'est un excellent ouvrage. En tout cas, je vous invite très 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 fortement à le lire. Donc, Chuck Palahniuk, c'est Monstres Invisibles. C'est disponible chez Folio dans la collection Policier. Va vraiment falloir qu'ils m'expliquent comment ils classent leurs bouquins. On se retrouvera la semaine prochaine pour la toute dernière du cycle sur Chuck Palahniuk. Et je vous parlerai de son tout dernier roman en date sorti en France qui s'intitule Peste. En attendant, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt sur Top 5.